Bonjour, je m'appelle Alice Vacher et avec l'agence de podcast Bababam, nous avons décidé de lancer l'empreinte. Nous partons à la rencontre d'entrepreneurs, de PDG de grands groupes, de directeurs de la communication, de la RSE, qui se battent chaque jour pour valoriser l'image, l'empreinte de leur entreprise. Dans ce nouvel épisode de l'Empreinte, j'ai le plaisir d'accueillir Laurent Vimon, CEO de Century 21. Bonjour Laurent.
Bonjour.
Alors avant de comprendre ton identité de marque, j'aimerais d'abord revenir sur ton parcours. Quel élève tu étais ?
Un très mauvais élève.
Très mauvais.
Très mauvais élève, c'est-à-dire... parce que parmi les cancres, près de la fenêtre, le radiateur, je me suis ennuyé à l'école toute ma scolarité. J'ai été heureux que dans une classe, c'était entre le CE1 et le CE2, parce que c'était une classe commune et que j'arrivais à suivre les cours qui étaient au-dessus, qui m'intéressaient. Je me suis ennuyé toute ma vie en cours. Toute ma vie, c'était pas pour moi.
Rien de t'inspirer, j'étais pas, aucune matière.
Le sport. Qui m'a sauvé la vie d'ailleurs, le sport. Non, j'ai le sport dans la peau et je suis sportif et je continue à faire du sport. Et c'est ça qui m'a permis de garder un peu de crédit sur moi, parce que quand on a des mauvaises notes à l'école et qu'on a entre 0, 2, 3, 4, 5, 6, à un moment on se demande si on est valable, si on vaut quelque chose. Et comme en sport j'avais 18, 20, je me disais, peut-être que dans le sport je réussirais quelque chose. Mais c'est terrible, hein, l'école, les mauvaises notes accumulées, parce que on prend des lacunes, on prend des carences, et à un moment on n'arrive plus à suivre.
Pour la confiance en soi, c'est compliqué.
Heureusement, j'avais le sport.
Et du coup, tu as pas voulu t'orienter dans le sport ?
Si, mais j'avais pas le niveau. Je me suis arrêté en seconde. J'ai joué au basket et j'étais nageur et j'étais pas assez bon basketteur et assez bon nageur pour faire une carrière. Donc j'ai arrêté l'école. Mes parents voulaient m'inscrire dans une école privée. J'ai dit, gardez votre argent, ça servira à rien. Vous tirez rien de moi à l'école. Je m'ennuie, j'ennuie les profs. On s'entend pas du tout. Il faut faire autre chose et puis on verra ce que la vie me réservera.
Et qu'est-ce que tu as fait du coup ?
Alors mon premier métier, ça a été de mettre dans une petite supérette en Seine-et-Marne des bouteilles d'eau en rayon. Super intéressant comme métier. Et là, j'ai découvert que j'allais payer très cher ma décision d'arrêter l'école parce qu'il fallait que j'obéisse à des gens qui étaient à mes yeux moins intelligents, moins compétents que moi, mais qui étaient depuis 10 ans. Et donc j'ai dû apprendre à courber un peu les chines et à trouver dans un job qui n'était pas intéressant des raisons de le trouver intéressant. Et ça a été tout au long de mon parcours dans ma vie professionnelle une leitmotiv, c'est de me dire dans ce métier-là, qu'est-ce qui est important pour les autres. Et dans la supérette, il fallait qu'il y ait de l'eau au rayon tout le temps. Donc c'était en permanence de me dire, mon job, il a peut-être pas grande valeur, mais moi je vais en faire un job à valeur ajoutée, puisqu'il faut qu'il soit bien fait, mieux fait, et que je déçoive pas les gens qui rentrent dans ce magasin.
Et à l'issue de ce job déjà, il a duré combien de temps ?
Rapidement, je me suis ennuyé. Je pense être parti de façon discourtoise en jetant un courton d'eau sur les pieds du contremaître qui me donnait des ordres qui étaient stupides. Donc voilà, je suis parti. Mais à l'époque, c'est le plein emploi. Ça devait être en 77. Donc on retrouvait un job quasiment en 2 secondes. Et comme j'aimais le sport, j'ai intégré un magasin de sport. Et j'ai pendant quelques années, 2 ans, cordé des raquettes de tennis l'été, c'est la mode, et préparé des skis l'hiver et surtout fréquenté des sportifs qui étaient mon univers. Donc voilà, j'ai fait ça. Et puis après, l'armée est arrivée. Et là, j'ai découvert des trucs.
Donc là, tu as fait l'armée après.
Ah oui, moi j'ai un âge où on fait l'armée. Je sais que pour des jeunes, ça peut paraître étonnant, mais j'ai fait le service militaire qui a changé ma vie.
Et pareil, il paraît que ça change une vie.
Oui, parce que on repart tous à zéro. Et donc, les complexes qu'on a à l'école, quand on est plus bon, quand on est largué par le système scolaire, disparaissent puisqu'on met tout à zéro. Et j'ai découvert des gens qui avaient moins d'éducation que moi, qui savaient pas écrire, pas lire. Je savais pas que ça existait, moi. On a mieux favorisé l'écriture, lecture et compter. C'était un truc de base, quoi. J'ai vu des gens que je pouvais aider, qui savaient ni lire ni écrire. Un fermier normand, entre autres,
Toi, tu te dévalorisais à cause de l'école. Finalement,
oui,
là, tu te sentais un petit peu.
Et puis après, comme on est tous habillés pareil à l'armée et qu'on juge les gens sur leur qualité physique, leur mental, etc. J'ai apparemment été un plutôt bon élément et j'ai repassé les examens pour être élève gradé, pour être sergent et, miracle, j'étais major de promotion. Ça m'était jamais arrivé. Et cette histoire-là, elle est dingue parce que j'ai redécouvert que je peux avoir de l'impact positif sur les gens et je peux avoir des bons résultats. Et puis à la fin de l'armée, on m'a proposé de repartir, de re-signer pour m'engager. Et puis j'avais à l'époque une jeune fille à laquelle je tenais, dont j'ai pas voulu signer. Et je suis parti faire autre chose de tout à fait différent.
Qu'est-ce que tu as fait du
coup ? J'étais maître nageur sauveteur.
Ah oui, donc vraiment plusieurs vies. Hein.
Ah oui, à la piscine de Melun avec Philippe Lucas. Pendant 3 ans.
Ah.
Et la piscine, pareil, j'ai appris des trucs intéressants. J'ai appris que j'étais responsable de la vie des autres et j'ai appris à transmettre un savoir que moi je maîtrisais, nager. Et j'ai appris que quand on le transmettait en disant « j'en fais comme moi », ça fonctionne pas. qu'il faut comprendre, qu'il faut découper les gestes en petits morceaux et que c'est pas la peine de montrer sans qu'on ait avant expliqué comment ça fonctionnait, qu'on ait permis à chacun d'acquérir les bons gestes et bonnes techniques. Il faut ensuite les additionner les uns après les autres pour savoir nager correctement. Donc ça a été 3 ans extrêmement intéressants, extrêmement riches, compliqués, mais c'était une vie agréable. Alors on en voit que la partie extérieure l'été, à la piscine quand il fait beau, l'hiver c'est moins rigolo, mais j'ai passé un moment agréable.
Et ensuite, suite à ça, tu as fait quoi ?
Ensuite, je me suis dit, et c'est aussi dans la vie un truc qui m'a guidé, change pendant que tout va bien. N'attends pas d'être installé trop de façon trop confortable, change pendant que tu as les moyens de choisir. Et l'image que j'avais en tête, c'était des gens qui étaient là depuis 5 ans, à la piscine, qui étaient depuis 10 ans ou 15 ans pour certains, et qui sont encore pour l'un d'entre eux, et dont je voyais le corps changer. Et je me suis dit, à l'époque étant sportif, avec le petit maillot, pas de problème, mais le maillot ne bougera pas, en revanche, je vais sûrement changer de corps. Et donc, il y a un truc qui ira plus avec l'autre. Donc, pendant que t'es encore possible, cherche autre chose. Et je suis tombé sur une annonce dont le titre était « Recherchons conseiller immobilier ». Et là, ça a été un coup de foudre absolu, puisque j'ai découvert ce métier immobilier avec Michel Trollet, qui a créé après Century 21, on y reviendra sûrement, et j'ai découvert ce métier exceptionnel qui consiste à sortir un budget, un projet, un rêve avec un logement sans qu'on soit capable de l'exprimer forcément, concrètement et facilement. Et donc, c'est une espèce de métier d'accoucheur d'idées, où il faut être capable d'écouter, de comprendre sur quel point les clients vont céder sans les frustrer, mais avec, à chaque fois que ça fonctionne et qu'on a sorti le client et la maison, un truc incroyable qui est un coup de foudre absolu, c'est celle-là. Voilà. Et les gens qui trouvent leur logement, dans l'ancien, ils sont tous différents, ont un vrai coup de foudre et y a dans l'œil des clients un regard particulier de remerciement à celui qui a trouvé le logement.
Et à ce moment-là, est-ce que cela s'appelait Century 21 ou c'est toi qui as créé le nom avec ton associé?
Non, moi j'étais juste collaborateur.
Comment la marque est née en fait?
Alors moi j'étais collaborateur dans l'agence Serim, qui s'appelait comme ça à l'époque, en 1983, et cette agence était dirigée par Michel Trollet. Et c'est Michel Trollet qui, en voyage aux États-Unis, a découvert Century 21, qui est une marque américaine. Il a vu le concept, il voulait lancer une franchise en France et s'est dit, plutôt que de réinventer un système complet, bah autant en acheter un, l'adapter au marché français. Et donc pendant 2 ans, j'étais un cobaye, puisqu'il a testé sur l'équipe qu'il avait en France le système américain, l'a adapté au marché français, et en 87 il a lancé le système en France et je l'ai rejoint au début pour faire les premières ventes de franchise. J'étais pas associé, j'étais jeune collaborateur, j'ai démissionné de mon poste de négociateur conseiller à l'époque pour choisir de faire des ventes de franchise, un système qui était le numéro 1 dans le monde, mais inexistant en France. Et donc j'ai appris à écouter, j'ai appris à questionner, j'ai appris à convaincre les gens, je les ai accompagnés, et au tout démarrage, on a fait signer 5, 10, 15, 20, 30, 40 agences immobilières qui ont rejoint le système et qui en ont fait ce qu'il est aujourd'hui, le numéro 1 français d'immobilier, je pense.
Et du coup, à l'époque, comment est-ce que tu as... installer cette image de marque, comment est-ce que Century 21 a émergé? Donc tu dis, voilà, au début tu grappillais un petit peu, tu prenais des parts de marché, etc. Mais comment l'histoire de Century 21 a été créée? Est-ce que vous êtes inspiré de l'histoire créée aux États-Unis ou est-ce que vous avez réinventé tout un storytelling autour de...
On a fait les deux.
Les deux.
On a fait les deux et on a inventé une façon de faire ce métier. Avant Century 21, les gens attendaient à l'agence que les clients arrivent. Nous, on a considéré que ça marchait pas comme ça. Avant, ils appelaient les journaux, le Figaro et d'autres supports auprès des gens qui vendaient leur logement. On a considéré qu'il fallait être un cran en amont et qu'il fallait que le collaborateur soit beaucoup plus près de la vie des gens. Une espèce de Monsieur Ricoré, pour ceux qui ont connu la pub Monsieur Ricoré.
Ouais, la
proximité,
connu, hein.
Voilà.
Bien essayé.
Non. Et donc on a construit un système d'îlotage de proximité des collaborateurs avec des gens qui n'étaient pas des vendeurs, mais qui seraient des futurs vendeurs, en se demandant comment on pouvait intéresser les gens. Et en fait, quand on écoute un peu et qu'on est un peu formé, l'immobilier, ça intéresse tout le monde tout le temps. Donc il a fallu construire aussi des stages de formation permettant aux gens de comprendre que ce métier est un vrai métier et qu'il repose sur des méthodes, des techniques comportementales, des techniques commerciales et puis des techniques juridiques, fiscales et financières. Et donc, on a été les premiers à construire une académie de formation pour les managers, qui à l'époque n'était pas manager, et pour les collaborateurs, en considérant qu'on ne peut pas être chargé de vendre une maison, de trouver une maison à quelqu'un, si au moins on n'est pas formé à le rapprochement entre une demande et puis un fichier, si on n'a pas une connaissance précise des environnements juridiques, fiscaux et financiers, si on n'est pas capable de faire un plan de financement. Donc on a beaucoup misé sur la formation, en considérant que il y avait un tas de sujets qui en permanence intéressaient les gens. Un sujet tout simple. Combien vaut votre maison? En 87, il n'y a pas Internet. En 87, personne ne sait comment savoir ce que vaut son logement. Et donc, l'idée était de dire, si on commençait par ça, et puis ensuite, quand on avait une maison à vendre, il faut informer les voisins. Ils sont 35% à être en général des acheteurs potentiels, à avoir un ami qui veut acheter ou vendre. Et donc, on a mis en place un marketing, alors, qui est un marketing très léger, qui est maintenant un vieux marketing, mais qui était basé sur la proximité et sur la compétence. Et la signature de la marque à l'origine, c'est « Vous allez changer d'avis sur les agents immobiliers ». Voilà, c'est la promesse de l'époque. Ça a pas trop mal marché.
Et aujourd'hui, c'est toujours le même slogan.
Non, parlons de vous, parlons bien. Bien avec un S. Parce qu'on considère qu'il faut plus communiquer sur soi-même, sa marque, sa puissance, ses performances, mais que ce sont les gens.
L'inbound marketing.
Exactement. Et que le consommateur est intéressé plus par lui que par la marque qui lui parle. Donc, parlons de vous, parlons bien.
Et donc, tu te reconnais dans les valeurs de ta marque aujourd'hui?
Oui, c'est une marque qui est particulière parce que d'abord on fait le plus beau métier du monde, loger. Il y a aussi la sage-femme qui est un petit peu au-dessus d'une autre, mais loger les gens, c'est un métier fantastique. Il y a le journaliste qui est pas mal non plus. Qu'on n'est pas forcément tellement aimé, et que le paradoxe, c'est qu'en général, les gens n'aiment pas les agents immobiliers en général, mais aiment bien le leur. Un peu comme les députés, c'est-à-dire que celui qui a réussi à faire son trou localement est extrêmement apprécié. Après, sur la marque aujourd'hui, on essaie de la moderniser, on essaie d'écouter ce qui se passe. On a été les premiers à s'intéresser au digital, à considérer qu'il y avait une révolution à mener, mais qui était une évolution, et que c'était une chance incroyable de participer à cette aventure qu'il y a peu de gens dans l'histoire du monde, et depuis une centaine d'années, qui participent à des révolutions aussi engageantes et aussi perturbantes, et que ça a été l'occasion de se dire, comment on va faire nous pour mettre plus de liens entre les consommateurs et l'agent immobilier. Donc c'est une aventure, ça a été une cure de jouvence pour moi, cette histoire.
Et tout à l'heure, tu me parlais de rencontres qui t'ont aidé à devenir l'homme que tu es, à... Dis-moi plus, ces rencontres, est-ce que tu peux me citer des noms?
Michel Trollet, celui qui m'a donné ma chance, que j'ai accompagné, et qui est celui qui m'a formé. Hervé Bléry, qui est celui ensuite qui m'a pris en charge et qui a fait de moi un formateur, un animateur, un consultant. Anne Lalou, qui a été la première patronne, ma patronne. J'avais jamais eu de patronne avant, et donc j'ai découvert le management d'une femme, et d'ailleurs depuis je suis très engagé sur le sujet. Alain Dinin, qui est le patron de Nexity, et qui est celui qui m'accompagne et qui est à la fois mon patron et mon actionnaire, et qui fait en sorte qu'on puisse continuer à changer la marque, à la métamorphoser. Donc voilà en gros les grandes rencontres qui ont marqué ma vie professionnelle, de gens qui sont des gens remarquables et qui ont une vision incroyable.
Et du coup, tu dois être souvent confronté à la concurrence.
Oui.
Comment tu fais pour installer ta marque par rapport à la concurrence?
Il y a des tas de marques qui se décrètent numéro un de plein de trucs. On peut tous être numéro un de quelque chose, mais on s'en fout, ça n'a pas de valeur. Nous, on est leader d'un marché. Et leader parce que on est la marque la plus connue, ça déjà c'est la base, qui a la plus forte notoriété, celle qui a la plus forte part de marché, celle capable de changer, de se remettre en cause, de se modifier, et puis celle qui depuis 4 ans est numéro 1 d'un palmarès auquel je tiens particulièrement, c'est le palmarès HCG Les Échos sur la relation client. Ça fait 4 ans, tout métier confondu, et la concurrence m'amuse et m'excite même, qu'on est numéro 1 devant Rolex, devant Cartier, devant des belles marques quand même, hein, et que ce classement nous met à la première place en termes de réactivité, de réponse aux clients. Et donc la concurrence, pour revenir à ta question initiale, c'est le truc le plus excitant au monde.
Après, c'est challengeant en fait.
Moi, je n'aime pas être deuxième, et je m'amuse de ces jeux. J'observe qu'on est souvent copié, ce qui est une vraie marque aussi.
Jamais égalé.
Peut-être, mais quand on est égalé, on fait un pas en avant, on accélère. Donc, il faut pas avoir peur de la concurrence, il faut pas avoir peur d'être copié, pas avoir peur d'être égalé. C'est un état d'esprit qui consiste ensuite à dire, mais qu'est-ce que je vais réinventer de nouveau, qu'est-ce que je vais faire? Coco Chanel disait, copiez-moi, j'aurai d'autres idées. Voilà.
Ça c'est créatif.
Il faut.
Et du coup, tu me disais qu'en termes de notoriété, vous étiez des leaders. Comment est-ce que tu arrives à créer cette notoriété? Donc, tu m'as parlé des réseaux sociaux. Tu investis beaucoup dans le marketing, dans la communication. Dis-moi plus, quels outils
La stratégie de ruissellement. Il y a une entreprise, Sensuel 21 France, qui est le franchiseur et qui dispose d'un budget alimenté par les agences, les franchisés, qui nous permet de faire de la télévision, de la radio, d'être par exemple Tour de France, faire plein de choses. Mais chaque opération est construite pour que chaque agence, ensuite, la fasse localement. Et on a 880 points de vente. Et que dans chaque point de vente, chaque collaborateur soit aussi un relais. Si on s'amuse à prendre quelques chiffres, quand on distribue des mailings, par exemple, qui ont été construits par le siège, et que chaque agence distribue 10 000, 15 000, 20 000, 50 000, 100 000 mailings par an, 100 000 mailings fois 900 agences, ça fait plusieurs millions. Quand nos 880 vitrines sont animées aux couleurs du Tour de France, une opération de recrutement, ça fait aussi un relais local. Quand les agences qui réalisent environ 45 000 ventes par an et 45 000 locations posent un panneau Century 21 à louer et à vendre, ça relaie l'image locale. Donc on a une stratégie qui est extrêmement simple. 1 euro investi au niveau du siège doit générer 1000 euros investis au niveau national. Et c'est comme ça qu'on a réussi à construire cette image. Ce qui est très marrant, c'est qu'aujourd'hui, Century 21, c'est une marque qui n'est plus traduite du français en anglais. Mmh. On me demande souvent qu'est-ce que ça veut dire Century 21. Ben, 21e siècle. Mais c'est devenu une marque quasiment française, comme Frigidaire, qu'on traduit plus. Enfin voilà, donc on est proche des gens, et puis les collaborateurs portent une veste de couleur or. Et cette veste est un outil marketing incroyable.
Et là, tu l'as pas, la veste or.
Non, parce qu'il a plus.
Déçu.
Oui, mais j'ai pris une grosse averse sur la tête.
Vrai,
et
c'est
voilà.
Vrai.
Et cette veste est un outil marketing incroyable. C'est-à-dire qu'elle permet à quelqu'un qui prospecte, qui est pas le truc le plus facile, d'être identifié comme quelqu'un qui fait de l'immobilier. Et pas comme un énième démarcheur qui va venir quémander une information. Donc, toutes ces méthodes mises bout à bout, et puis le fait que dans le système, la prospection, qu'on appelle maintenant marketing opérationnel, soit un élément vraiment différenciant de la vie des collaborateurs qui doivent passer du temps sur le terrain et dehors, fait que cette marque est aujourd'hui très connue et qu'on essaie de la moderniser en permanence et de l'utiliser Facebook, Twitter, Instagram pour continuer à la rajeunir. Voilà, on est en pleine phase de métamorphose. Non, comment un serpent, il perd sa peau, voilà, en phase de mue. Voilà, on mue en permanence.
C'est une belle métaphore. Et du coup, tu utilises les réseaux sociaux, mais moi, j'avais vu notamment à Vivatech, c'était les Google Glass, je crois, où on pouvait faire des visites d'appartements immersives. Est-ce que vous intégrez la technologie aussi dans les visites de biens, etc.
Mais c'est très limité. Google Glass d'abord a arrêté.
Oui, c'est vrai que ça a arrêté.
Parce que c'était très intrusif et que ça dérangeait. Et puis qu'un appartement, c'est quelque chose qui est très particulier. Et dans l'ancien, ils sont tous différents. Et tant qu'on n'a pas vu, senti et touché, ça marche pas.
Donc tu crois pas dans la technologie pour ça?
Je crois que ça peut être un outil de présélection, mais ça ne remplace pas la visite. Il faut faire ce métier pendant quelques mois pour comprendre que le rapport entre un client et un logement est très particulier et que c'est quasi charnel.
Il y a parfois une odeur. Moi, je sais quand j'ai choisi mon appartement, j'ai l'odeur.
Et ben voilà. Alors, pour l'instant, il n'y a pas les odeurs qui sont utilisées. Mais on voit des gens peuvent être touchés par un angle de mur, le crissement d'un parquet. En fait, il y a un rapport à l'enfance dans le choix du logement.
La Madeleine de Proust.
Et donc, ça peut être la cheminée. C'est très particulier. Et pour l'instant, on n'a rien trouvé qui remplace la visite. On a trouvé l'outil qui permet de faire des présélections, d'éviter de se tromper et de montrer des choses quand même pas du tout. Mais en technologie, on est en revanche très engagé sur tout ce qui est outil permettant d'améliorer la relation client. Dans ces métiers du commerce, souvent, les commerciaux ont du mal à rappeler leurs clients. Quand en plus, dans un métier d'offre et de demande, il y a plus d'acheteurs que de vendeurs, l'acheteur qui a pas acheter au bout d'un mois, il est en dessous de la pile et il est un peu oublié. Donc on a, avec le digital, utilisé des méthodes qui permettent aujourd'hui d'avoir des relances automatiques pour ne pas laisser les gens sur le bord de la route. Ça, c'est un exemple. On a créé des applications permettant aux collaborateurs de partir quand ils vont prospecter avec le savoir de l'agence. C'est-à-dire qu'ils ont plus ils arrivent sur le terrain avec une connaissance intime de ce qui s'est passé. J'avais été inspiré par un reportage sur Barack Obama et sa campagne électorale et son équipe de geeks. Et à l'époque, chaque bénévole qui prospectait pour Obama avait dans son application, devant chaque maison, le nom, le prénom, l'adresse, bien sûr, des gens qui habitaient, mais tout ce qui était opinion religieuse, pour compte avortement, et toute la connaissance, là-bas, c'est autorisé, et les fiches langage qu'elle avait avec. Et je me suis dit, mais nous, il faut qu'on ait un système qui permette, sans parler de religion, de savoir au moins quand un jeune conseiller démarre, que dans ce secteur, il y a eu cette maison qui a été vendue à tel prix. Et donc quand ils arrivent, même au bout d'un mois ou deux mois de métier, ils savent. Ils ont une connaissance intime du secteur grâce à l'application. Donc on est en permanence en train de voir comment on peut, avec cette technologie, modifier la vie des collaborateurs. Moi, j'ai une grande théorie sur le sujet, c'est que le digital, ça a fait changer le savoir de camp. C'est-à-dire que avant, l'agent était un expert, un sachant, c'est terminé. Le client maintenant, avec son téléphone au bout de la main, en sait quasiment autant que lui. Doctissimo.fr, le vendeur à la FNAC, c'est fini. C'est-à-dire que le client arrive et croit savoir, ce qui est terrible. Le conseiller devient un trieur d'informations. Et plus celui qui sait et qui est un peu de façon pédante ou suffisante va daigner répondre aux questions, aujourd'hui, il doit démêler le vrai du faux de ce que croit le client. C'est un autre métier, une autre façon d'exercer. Mmh. Il faut être mieux formé. Et puis, c'est extrêmement intéressant et passionnant comme aventure.
Oui, donc finalement, c'est une mutation des métiers. Moi, je me rappelle quand je travaillais dans le retail que les gens avaient peur de la digitalisation parce qu'ils avaient peur que ça remplace leur métier et qu'ils se retrouvent au chômage. Mais en fait, c'est une mutation des métiers. Et toi, ce que tu me dis, c'est que au sein de Century 21, les métiers ont changé.
Il y a 8 ans, on a tout cassé. On a tout remis à plat, tout réécrit, les procédures, les formations, les outils. On a tout remis à plat et on a considéré que c'était une chance incroyable d'y aller avant tous les autres. Ce qu'on a fait, ils ont tous suivi et on est assez fiers aujourd'hui de nos résultats. On doit avoir, je crois, depuis 4 ou 5 ans, 45% de croissance en termes de performance, de résultats. Donc chiffré, ça c'est pas la notoriété. Et donc on pense qu'on a pris les bons chemins et on pense qu'on n'a pas encore tout exploré, qu'il y a plein de choses à faire. On parlait de Facebook tout à l'heure, il y a aujourd'hui des agences qui ne passent plus de pubs dans les supports traditionnels, dans les grands portails, mais qui font des pubs ciblées.
Bien sûr, mais
et ça a un avantage, c'est que le vendeur qui confie son mandat, il a un reporting précis du nombre de likes, du nombre de vues et des commentaires clients. Il n'y a aucun outil qui fait ça. Twitter est un porte-voix exceptionnel. Instagram pour la vente de maisons.
Et on a les analytics en plus sur les réseaux sociaux, ce qu'on n'a pas dans les pubs.
Moi, je ne mesure pas trop parce que je ne suis pas un obsédé du ROI. J'aime bien tester. Oui, mais l'école et le fait que je n'ai pas de diplôme m'a forcé à cultiver l'instinct.
Ah oui, c'est non, l'instinct et surtout l'instinct
et donc,
féminin.
Je fais confiance. Il y a un débat intéressant sur l'instinct féminin. J'oppose pas l'un à l'autre. Je pense que il faut cultiver son instinct simplement comme un non-voyant qui n'a pas la vue et qui cultive son audition. Voilà, c'est écouter son instinct, lui faire confiance, le cultiver, parce que c'est souvent sous-estimé. On sait pas confiance.
Et est-ce que Century 21 est incarné par quelqu'un? Est-ce que tous les employés sont ambassadeurs de la marque? Est-ce que personne? Oui, tous.
Le fait de porter une veste déjà.
Oui, c'est vrai, c'est ce que tu me disais. Mais même sur les réseaux, est-ce qu'ils communiquent facilement?
Oui, beaucoup.
Tu as une culture d'entreprise très digitale,
Tout le monde s'y est collé, on a formé, on a informé, on a mis des outils en place, on a créé un ensemble de tutos pour que les gens comprennent comment ça fonctionne. Et puis moi, j'ai pris mon bâton de maréchal et j'ai été l'exemple. Je m'y suis collé. Et donc, j'ai animé ma page Facebook, je réponds aux messages en direct. J'ai pas un comité manager qui gère ma page. Mon compte Twitter, c'est mon compte. Je réponds régulièrement.
Je t'ai contacté sur Twitter.
Voilà, et en direct, sans que personne ne fasse le filtre. Ça me prend un peu de temps. Il y a qu'une personne qui en est un peu ombragée, c'est ma femme qui trouve que j'y passe trop de temps. mais voilà, je mets un point d'honneur à répondre à tout le monde et à montrer qu'on peut répondre. Mais c'est aussi en interne, dans les évolutions du digital, dans le management des collaborateurs, il y a un vrai changement. C'est pareil, le savoir n'est plus le pouvoir. Le savoir est accessible. Et donc, il faut savoir être accessible en permanence de l'assistante au patron d'agence. Et avec un outil comme Atwork qu'on a pris chez Facebook, il y a un lien direct entre le président et n'importe qui. J'ai reçu un message tout à l'heure d'une assistante qui va faire une surprise à son patron d'agence, qui m'a demandé si je voulais venir. Je dis bien sûr, avec plaisir. Ils seront demain au siège pour une formation. Je passerai la tête dire coucou. Ça m'a pris quelques secondes. Et je sais que c'est impactant.
Tout à fait.
Et que c'est le temps dans nos métiers, les gens investissent beaucoup d'argent en communication, marketing, en oubliant un truc, c'est que le temps de réponse, il est déterminant, et qu'on peut dépenser des millions d'euros en formation, en procédure, si quand un client pose une question, on répond pas en moins de 3 heures, tout s'effondre. Et dans les outils qu'on a mis en place, on a mis un truc qui s'appelle 100% réactif. Chaque agence, tous les mois, est testée, ou bien un mail, ou bien un coup de téléphone, ou bien une visite, et on évalue son temps de réponse à la question. Quand elle répond en moins de 6 heures, elle a une pastille verte. Entre 6 et 12, elle a une pastille orange, et plus de 2 heures, une pastille rouge. Et c'est pas la peine de faire bien son métier après, si on n'a pas répondu rapidement au client, parce qu'on est tous devenus extrêmement impatients. Tous. Et donc, on est tous consommateurs de quelque chose. La grande évolution, c'est qu'il faut plus maintenant comparer les marques dans leur métier. La compétition, elle se joue entre marques multimétiers. C'est Century 21, BMW, Accor. Parce que le consommateur, il passe de l'un à l'autre et il évalue les marques les unes par rapport aux autres, pas qu'en immobilier. dans tout ce qu'il va consommer. Et donc, il faut s'inspirer de ce qui est fait par ces grandes maisons.
Et est-ce qu'il y a une cause que porte la marque Century 21 ?
En fait, c'est pas une cause, c'est deux causes, je vais le dire comme ça. La première, c'est faire de l'agence Century 21 une agence intégrée dans la vie de la ville, une agence citoyenne. Et pour ça, on a construit une opération qui est la collecte des jouets. Chaque année, quasiment 600 agences, c'est facultatif comme opération, se mettent en marche pour collecter des jouets pour les enfants défavorisés. Chaque agence choisit l'association qui l'intéresse, Secours Populaire, Resto du Cœur, Hôpitaux Enfants Malades, et l'équipe commerciale dont le métier est de faire du commerce et de gagner de l'argent, donne du temps pour aller collecter ces jouets. Mais ça pourrait s'arrêter là. Et ça n'aurait pas d'intérêt. Chaque agence ensuite nettoie ses jouets, les met sous paquet cadeau et les distribue lors d'une soirée à la sauce qui a été choisie. Et les collaborateurs qui ont fait ça et qui voient des gamins qui n'ont pas de Noël, qui n'ont pas de jouets, ils en ressortent changés. Et ils ont donné un sens à leur métier. Et ceux qui ont fait les hôpitaux pour enfants malades, ils en repartent bouleversés en se disant, on a de la chance, il faut donner un peu de son temps aux autres. Donc ça, c'est une opération qui est importante. Je donne un chiffre, on a collecté en 2018 550 000 jouets qui ont été distribués à des gamins pour Noël. C'est quelque chose qui est important de donner de son temps aux autres. Et puis, l'autre sujet, c'est pas une cause, c'est l'intégration sociale. Century 21, c'est aujourd'hui plus de 500 patrons qui ont démarré chez nous comme assistantes, conseillers ou managers. Et aujourd'hui, ils sont patrons de leur entreprise. Ils ont eu leur chance. Et on a la chance d'avoir un métier où il n'y a pas de filtre. C'est-à-dire pas de filtre sur le sexe, pas de filtre sur l'âge, pas de filtre sur le diplôme. Il suffit de venir et d'être motivé, on s'occupe du reste. C'est le nom de la campagne de recrutement qu'on a lancée au mois de mars, avec un sujet important pour moi, c'est la place des femmes. J'ai une patronne femme, ça a été une révélation, et j'ai vu ma maman pendant des années avoir du mal à avoir le droit de travailler. Et je suis pas dans l'équipe, il faut pas imposer l'équité. Il faut donner à chacun la chance, le droit de pouvoir tenter sa chance. Et chez Century 21, on a aujourd'hui 440 patronnes et managers qui sont des femmes et qui ont démarré assistante ou conseillère et qui ont gagné la confiance de leurs clients, des collaborateurs, et aujourd'hui qui sont patronnes de leur entreprise. Et ça, c'est quelque chose dont je suis très fier. Le réseau, c'est 52% de femmes et 48% d'hommes. Voilà. Donc il y a un bon équilibre. Je prône l'harmonie, la complémentarité, et quand on décide que le dirigeant est le garant de tout ça, ça marche beaucoup mieux.
Et quels sont les prochains projets pour Century 21 ?
C'est capitaliser sur le réseau physique, qui a une valeur terrible. C'est voir comment on peut renforcer la présence du terrain des collaborateurs en les rendant plus proches et plus compétents, et surtout en faisant des spots TV à deux pattes, si je devais caricaturer. Mais pour ça, il faut de la compétence, il faut de l'énergie, il faut de l'enthousiasme, il faut du temps. C'est de faire de la marque une marque légendaire, une marque qui aura marqué la vie des gens et dont certains diront, tiens, ils ont bien pris le verre du digital et ils ont compris quelque chose qui changeait.
Merci Laurent.
Merci d'avoir beaucoup.
Merci d'avoir écouté l'empreinte. Vous pouvez retrouver tous les épisodes sur Bababam, Spotify, Deezer et sur toutes les applications de podcast. N'hésitez pas à liker, partager et commenter le podcast. Et puis suggérez-moi des profils. Je serais ravie de les accueillir dans l'empreinte.